Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 10 juillet 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Anne, au sommaire de cette édition.
Publication aujourd'hui du rapport d'Amnesty International sur les exactions en Centrafrique et leurs auteurs et instigateurs.
Au Burundi, les députés adoptent un projet contre la prolifération anarchique des églises dans le pays.
À l'ONU, le secrétaire général Ban Ki-moon inquiète des risques de guerre ouverte entre Israéliens et Palestiniens.
Les insurgés irakiens se seraient emparés de matière nucléaire à l'université de Mossoul.
Projet de loi en France pour renforcer la législation antiterroriste du pays et décourager les velléités djihadistes.
En France, le gouvernement, toujours, sommé par le Conseil d'État de délivrer sous 24 heures un visa à un homosexuel sénégalais pour lui permettre d'épouser son conjoint français samedi. Et ne manquez pas, en fin d'émission, le journal de la Coupe du Monde et la musique de Roger Muntu. Pour l'instant, le journal. Amnesty International, l'organisation de défense des droits de l'homme basée à Londres, publie aujourd'hui son rapport très attendu sur les exactions en Centrafrique et leurs auteurs et instigateurs. Les précisions d'Issia Kaba.
Le document intitulé « République centrafricaine, le temps de rendre des comptes » porte essentiellement sur les crimes de droit international commis en RCA en 2013 et 2014. Son objectif, faire en sorte que les auteurs et responsables de ces exactions soient poursuivis et punis conformément à la loi. C'est le seul moyen d'assurer que la Centrafrique se remette de la vague des meurtres en cours depuis décembre 2013, a déclaré en substance Christian Mukosa, chercheur sur la RCA à Amnesty International. Le document identifie un certain nombre d'auteurs ou d'instigateurs des crimes commis dans le pays pendant la période considérée. Parmi les noms les plus connus cités par Amnesty, l'ancien chef d'État François Bozizé et le coordonnateur Lévi Yakété, côté anti-Balaka, et l'ex-président Michel Djotodia et son proche collaborateur Nourdine Adam dans le camp des ex-Séléka. L'Organisation de défense des droits humains exige aussi que les forces internationales en RCA, coupables d'exactions, rendent aussi des comptes à la justice.
L'Algérie accueillera dans une semaine des négociations entre le gouvernement malien et les groupes armés du nord du Mali. Zoumana Wonogo.
Les négociations sur la crise au nord Mali vont reprendre à Alger. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi Ramtane Lamamra, le ministre algérien des Affaires étrangères, juste après son audience avec le médiateur Blaise Compaoré.
Nous nous proposons donc de lancer la phase initiale du dialogue intermalien inclusif le 16 juillet à Alger, en présence des ministres des pays de la région, ceux qui sont déjà actifs dans le cadre d'un comité de haut niveau de soutien au dialogue intermalien, groupe dans lequel le Burkina Faso joue un rôle éminent. La délégation du gouvernement malien, dont le président Brahim Boubacar Keïta nous a confirmé la présence à Alger à cette date, plus les délégations des mouvements politico-militaires du nord du Mali seront également au rendez-vous.
Doit-on alors penser que Ouagadougou perd la main avec cette délocalisation des négociations? Suivant Thomas Palé, le ministre burkinabé chargé de la coopération régionale.
Il ne faut pas se focaliser sur le lieu. L'objectif recherché, c'est le plus important. Nous travaillons en synergie pour le Mali et pour tous les pays de la région. Nous avons tous besoin de paix. Donc je pense que l'Algérie et le Burkina Faso travaillent de manière à renforcer en tout cas les piliers de cette paix.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Les députés burundais ont adopté hier un projet de loi destiné à lutter contre la prolifération des églises Claire Morin-Gibourg.
Ce projet qui encadre les confessions religieuses a été voté à l'unanimité par les députés burundais. Selon l'AFP, Edouard Nduimana, ministre de l'Intérieur, estime qu'il y a trop de confessions religieuses dans un si petit pays d'Afrique centrale. Son ministère avait recensé 557 confessions religieuses, majoritairement chrétiennes. Les églises, en particulier évangéliques, se sont multipliées dans le pays depuis la guerre civile qui a duré de 1993 à 2006. La presse locale dénonce régulièrement des abus, notamment sexuels, mais également des problèmes de voisinage, car nombre de ces dites églises sont installées chez des particuliers. Ces sectes exercent donc de façon anarchique et parfois sans être agréées. Il fallait donc remettre un peu d'ordre. Selon la nouvelle loi, toute confession religieuse devra présenter au moins 500 membres fondateurs résidant au Burundi pour être agréés. Ce nombre est porté à 1000 dans le cas d'une église d'origine étrangère. Toutes les églises du pays auront 24 mois pour se conformer au nouveau texte dès sa promulgation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, estime que la récente flambée de violence entre Israël et les Palestiniens constitue l'un des tests les plus critiques auxquels le Moyen-Orient fait face depuis des années.
Monsieur Ban a souligné que la région ne peut pas se permettre une autre guerre ouverte et il a ajouté que le risque s'accroît. Il a passé une bonne partie de la journée d'hier au téléphone avec les leaders du monde à la recherche d'un moyen de juguler la crise. À la demande de représentants permanents arabes à l'ONU, le Conseil de sécurité doit tenir une réunion d'urgence sur ce qu'ils ont appelé l'agression israélienne.
L'aviation israélienne a continué hier ses raids sur des cibles palestiniennes à travers la bande de Gaza et les militants palestiniens leur tir de roquettes sur Israël. Le premier ministre israélien Netanyahou a averti que cela coûtera très cher au Hamas. Pour leur part, les officiels palestiniens disent qu'au moins 44 personnes ont été tuées cette semaine dans la bande de Gaza, dont des femmes et des enfants. Israël n'a pas signalé de mort de son côté.
En Irak, les insurgés se sont emparés de matières nucléaires utilisées dans des recherches scientifiques à l'université de Mossoul, dans le nord du pays. Selon l'agence Reuters, qui rapporte la nouvelle, le représentant permanent irakien à l'ONU, Mohamed Ali Al-Hakim, l'a révélé dans une lettre au secrétaire général Ban Ki-moon.
Le diplomate irakien a appelé à l'aide pour écarter, je cite, « la menace de leur utilisation par les terroristes en Irak et à l'étranger ». Selon M. Al-Hakim, environ 40 kilos de composés d'uranium étaient gardés à l'université de Mossoul. Une source gouvernementale américaine citée par l'agence Reuters ne croit pas qu'il s'agisse d'uranium enrichi. Il serait dès lors difficile de l'utiliser pour fabriquer une arme nucléaire.
Et puis le vice-président américain Joe Biden a appelé hier au téléphone le président du Kurdistan irakien Massoud Barzani, le jour même où le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a accusé les Kurdes d'abriter des insurgés djihadistes. Félix Yepassis Zembrou.
Selon le communiqué de la Maison-Blanche, M. Biden et Barzani sont tombés d'accord sur la nécessité d'accélérer le processus de formation de gouvernement conformément à l'agenda défini dans la constitution irakienne. Cependant, la Maison-Blanche a refusé de préciser si l'appel de M. Biden fait suite aux propos enflammés de Nouri al-Maliki à l'encontre des Kurdes. Le premier ministre irakien a accusé les Kurdes d'abriter des insurgés djihadistes. Ces accusations ont accentué les profondes divisions qui minent le pays depuis que les combattants de l'État islamique ont conquis des pans entiers du territoire. M. Maliki, un chiite au pouvoir depuis 2006, prête ainsi le flanc aux critiques de Washington qui appellent depuis des semaines à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dépassant les divisions entre communautés pour faire face aux islamistes. Le vice-président américain a multiplié les appels à l'union des sunnites, des chiites et des kurdes d'Irak pour débloquer la crise à la fois politique et militaire du pays. Le communiqué de la Maison-Blanche ne revient pas sur les précédents appels de M. Barzani à organiser un référendum d'indépendance dans la région autonome du Kurdistan, projet auquel Washington s'est dit fermement opposé.
Le président de l'Ukraine, Petro Poroshenko, s'est juré de reprendre les derniers secteurs encore aux mains des rebelles dans l'Est. Mais a-t-il ajouté, les forces gouvernementales feront preuve de retenue.
M. Poroshenko a tenu ses propos hier lors de la visite qu'il a rendue à son armée à Sloviansk, l'ancien bastion des rebelles. « Il n'y aura pas de combat de rue à Donetsk », a-t-il promis. Selon lui, ce n'est que par la paix, le désarmement et l'amnistie que l'on pourra avancer. Kiev et Moscou estiment qu'un cessez-le-feu négocié est encore possible, malgré le scepticisme de certains analystes quant aux intentions du Kremlin.
Le président Barack Obama estime que le Congrès a les moyens de régler le problème posé par la vague de mineurs non accompagnés qui traverse la frontière des États-Unis avec le Mexique.
Monsieur Obama parlait hier à la presse après sa réunion sur cette crise avec le gouverneur du Texas, Rick Perry, et d'autres officiels. Il a dit avoir exhorté Monsieur Perry à faire pression sur les représentants de son État au Congrès pour une approbation des fonds d'urgence, 3,7 milliards de dollars, que le président Obama a demandé.
« Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Washington, la voix de l'Amérique. Le Forum de réconciliation nationale et le dialogue politique pour tenter de ramener la paix en Centrafrique, c'est prévu du 21 au 23 juillet à Brazzaville. Cette rencontre doit rassembler tous les acteurs centrafricains pour tenter de trouver une solution à la crise. Mais des leaders religieux et politiques ont laissé entendre clairement cette semaine que la réunion devrait se tenir plutôt à Bangui. Idriss Fall, adjoint bienvenu au Kiemi, porte-parole du gouvernement congolais à Brazzaville.
Le forum de Brazzaville, qui aura lieu du 21 au 23 juillet 2014, a projet d'encourager le dialogue politique inclusif intercentrafricain sur un terrain neutre, donc Brazzaville. Il s'agit en fait de mettre en place un dialogue qui est aujourd'hui nécessaire pour un retour à la paix et à la sécurité en République centrafricaine. L'objectif, donc, est d'arriver à terme à ce qu'il y ait une cessation complète des hostilités, à ce qu'il y ait un réel désarmement des groupes armés, et faire en sorte aussi qu'il y ait un cadre politique qui permette une réorganisation de ce pays. Je rappellerai quand même que le retour à la paix en RCA est contributif de la paix dans la sous-région en Afrique centrale, et au-delà, en Afrique même. Et c'est la raison pour laquelle vous avez un investissement très important du président de la République du Congo, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Je rappellerai aussi que Brazzaville a une longue frontière avec la République centrafricaine. Nous partageons une histoire commune et nous avons une histoire aussi en termes d'échanges et d'investissement du Congo et somme toute tout à fait normale.
Il y a des voix à Brazzaville, notamment des leaders religieux et politiques, qui pensent que quand même que la réunion aurait dû se tenir à Bangui et non à Brazzaville.
Ce que j'invoque en réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un conflit dans un pays, il est toujours de bonne loi d'essayer de trouver un terrain neutre qui permettent d'arriver à un modus operandi, un modus vivendi, sur la façon de recouvrer la paix et aussi sur la façon de réorganiser l'État avec la participation de tous. Je pense que Brazzaville est indiqué. Je rappellerai quand même que dernièrement, le 7 juillet 2014, à Addis Abeba, s'est tenue une réunion du groupe international de contact sur la République centrafricaine. Brazzaville a été confirmé comme lieu d'accueil de ce forum portant réconciliation des enfants et des filles de la République centrafricaine. Auparavant, on rappellera quand même que à Malabo, dernièrement, en marge du sommet de l'Union africaine, là encore, Brazzaville avait été retenu pour organiser ce forum et le président de la République du Congo a été invité à trouver les voies nécessaires qui permettent un retour à la paix en République centrafricaine.
Bienvenue au Kiemi, porte-parole du gouvernement congolais à Brazzaville.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a présenté hier un projet de loi visant à renforcer la législation antiterroriste française. Il s'agit d'enrayer le départ en nombre de jeunes volontaires ou résidents français pour la Syrie ou l'Irak et le retour de certains. Camille Grodidier.
Le projet répond aux soucis exprimés par les services de lutte antiterroriste et les magistrats spécialisés qui demandaient depuis des mois le renforcement de l'arsenal juridique français. Il comprend une série de mesures pour renforcer la surveillance et la détention de suspects ayant des liens avec des groupes islamistes radicaux. Il instaure une nouvelle incrimination, l'entreprise individuelle à caractère terroriste, et prévoit le renforcement de la répression de l'apologie d'actions terroristes et d'incitation, essentiellement sur Internet. Le texte prévoit également la création d'une interdiction administrative de sortie du territoire français qui concernera certains ressortissants majeurs ou mineurs. Selon M. Cazeneuve, environ 800 jeunes ont rejoint des milices djihadistes à l'étranger et une centaine s'apprêterait à revenir en France. Bernard Cazeneuve s'exprimant sur France Info.
Tous ces jeunes qui partent, qui ont fréquenté la violence, et une violence absolument épouvantable avec des tortures, des décapitations, des crucifixions, des meurtres en nombre, et qui reviennent après avoir été détruits par cette fréquentation de la violence barbare, représente un risque pour notre pays.
Les réactions au projet de loi sont mitigées. Pour certains, il s'agit de demi-mesures, alors qu'on devrait prendre en charge les jeunes vulnérables dès le lycée. D'autres évoquent une nouvelle violation des droits fondamentaux. L'Union européenne et les États-Unis se préoccupent de plus en plus de ces jeunes qui rejoignent les mouvements djihadistes. Les États-Unis estiment qu'il y a environ 7000 combattants étrangers, rien qu'en Syrie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Pour rester en France, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, a ordonné la délivrance d'un visa dans les 24 heures à un ressortissant sénégalais vivant au Maroc pour qu'il puisse venir se marier en France avec son conjoint français. Le ministère de l'Intérieur de la France avait justifié le refus de visa en doutant de la sincérité de l'union. Lise Faron, responsable de la commission migrants de la CIMAD, revient sur l'importance de cette décision de justice.
C'est surtout que c'est une décision qui fait écho à de nombreux éléments beaucoup plus larges qui touchent les personnes étrangères qui souhaitent épouser des ressortissants français. Quand vous êtes étranger et que vous voulez épouser un français, vous devez depuis l'étranger faire une demande de visa long séjour. Et là, vous vous heurtez en fait à l'arbitraire des consulats qui refusent les visas souvent, là comme c'est le cas pour ce couple, en invoquant un risque de détournement du visa ou un risque migratoire. C'est quelque chose qu'on voit très particulièrement sur les conjoints de Français, qui est aussi plus large, hein, sur toutes les demandes de visa.
Est-ce qu'il n'y a pas une suspicion qui est grandissante concernant tous les conjoints de Français, qu'ils soient d'ailleurs homosexuels ou hétérosexuels ?
Si, tout à fait, il y a une suspicion très large. Le procureur de la République déclenche très fréquemment des enquêtes sur la sincérité du mariage. Enfin, on voit vraiment une suspicion très très large envers les conjoints étrangers des ressortissants français et on met jamais en cause la sincérité de l'intention du mariage quand il s'agit d'un mariage entre deux personnes elles-mêmes françaises. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche particulièrement les conjoints étrangers.
Chacun doit être égal devant la loi, mais oui. Apparemment 11 pays n'ont pas le même traitement concernant la loi relative au mariage pour tous ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, donc la loi relative au mariage pour tous du 17 mai 2013, en principe, s'applique à tous. Simplement, il y a une circulaire qui date de mai 2013, qu'on appelle la circulaire Taubira, qui est une circulaire du ministère de la Justice, qui en fait, de manière tout à fait étonnante, exclut de l'application de la loi 11 pays qui sont signataires de conventions bilatérales avec la France, donc parmi lesquels le Maroc, le Monténégro, la Serbie, le Cambodge, je les énumère pas tous. Et en fait, c'est des pays pour lesquels la France a signé une convention bilatérale excluant, a priori, le mariage entre personnes du même sexe, mais sauf qu'en réalité, la loi française telle qu'elle a été adoptée au mois de mai 2013 surpasse ces conventions bilatérales, et c'est ce qu'a jugé d'ailleurs la cour d'appel de Chambéry dans une affaire où elle avait été saisie par un couple franco-marocain qui se faisait opposer un refus de mariage, et donc la cour d'appel de Chambéry a sanctionné ce refus de mariage, a obligé l'État à accepter de marier ce couple homosexuel franco-marocain, et donc on voit qu'il y a quand même une vraie volonté de la part du gouvernement français d'exclure certaines catégories de personnes étrangères du droit au mariage.
C'était Lise Faron, responsable de la commission migrants de la CIMAD, au micro de Claire Morin-Gibourg.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, la Coupe du Monde au Brésil à 3 jours de la grande finale. Et cette question, pourquoi l'Afrique n'a-t-elle pas pu encore une fois aller au-delà des quarts ? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
La VOA, la Voix de l'Amérique, à partir de Washington. Maintenant de Belo Horizonte, le journal de la Coupe du Monde avec l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique, Nicolas Pinot.
Bonjour à tous, nouveau numéro de ce journal de la Coupe du Monde au Brésil et l'Argentine qui rejoint l'Allemagne en finale de ce tournoi.
It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play.
La bande à Lionel Messi a eu toutes les peines du monde pour venir à bout des Pays-Bas hier. Avant le match, une minute de silence en mémoire d'Alfredo Di Stefano a été observée alors que les joueurs argentins portaient un brassard noir. Il faut bien avouer que ce fut un match terne, sous la pluie, et un 0-0 à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Les joueurs de l'Albicéleste se sont montrés les plus adroits à la fameuse séance des tirs au but 4-2, sans oublier leur gardien Sergio Romero, qui a arrêté deux frappes néerlandaises. La finale de dimanche sera donc un remake de la finale de 1990 en Italie, où l'Allemagne l'avait emporté. La demi-finale d'hier ne restera pas dans les annales, tant les acteurs n'ont pas montré un bon spectacle à Sao Paulo. Pour notre confrère du journal L'Équipe, Hervé Penaud, les deux équipes n'ont pas voulu prendre de risques après la lourde défaite mardi du Brésil.
Je pense que le résultat quand même du Brésil de la veille avait montré qu'il fallait surtout pas prendre de risques inutiles, ne pas se découvrir d'entrée. Et donc les deux équipes ont joué un peu avec la peur au ventre, la peur de ne pas aller en finale. Et le problème de ce genre de situation, c'est que après il y a toujours une équipe qui va en finale. Donc celle qui a perdu a la déception de ne pas avoir tout tenté. Et je suis persuadé aujourd'hui que les Néerlandais peuvent se dire il y avait un coup à jouer. Mais ils n'ont pas tenté à fond, alors que je crois qu'ils avaient des moyens de s'imposer contre cette équipe argentine.
Et il y avait deux joueurs qui étaient très attendus, notamment Robben et donc Lionel Messi. Comment vous avez trouvé l'un et l'autre ?
Robben a tenté un petit peu plus. Il n'a pas été exceptionnel. Il n'a pas fait les différences individuelles parfaites. Il a eu une occasion incroyable, hein, mais il a un contrôle qui va un petit peu loin sur une phase de slider dans la surface de réparation. Il se fait reprendre par le défenseur, mais ça reste toujours un poison pour toutes les équipes. Et puis, on n'a pas tellement vu Messi, effectivement. Il a eu beaucoup de mal sur ses initiatives individuelles. Il a été pris dans son jeu d'élimination. Il a été plus en difficulté, parce qu'à l'habitude, on sait qu'il est capable d'éliminer facilement. Là, il a une lecture du jeu des défenseurs néerlandais qui l'ont empêché de se mettre en valeur. Donc, il n'a pas eu l'influence qu'on pouvait imaginer de Messi. Mais au final, l'équipe gagne. Donc, je pense qu'il est plus content d'avoir été moins fort individuellement, mais collectivement, que son équipe soit passée.
Notre confrère Hervé Penaud. Samedi, le Brésil affrontera donc les Pays-Bas pour la petite finale, le match pour la troisième place. Après la défaite historique concédée face à l'Allemagne, Luis Felipe Scolari n'a pas annoncé sa démission du poste de sélectionneur du Brésil. Depuis le camp de base de la Seleção à Teresópolis, il a expliqué qu'il s'entretiendrait avec la fédération brésilienne une fois la Coupe du Monde terminée. Écoutons à présent notre consultant Jules Valentin Gouet qui revient sur cette débâcle du Brésil en demi-finale. We celebrate the best African football.
Bonjour. Comment ne pas revenir sur la catastrophe historique de Belo Horizonte, devenue l'événement de cette Coupe du Monde, qui a vu l'Allemagne corriger le Brésil dans une rencontre surréaliste dont personne ne pouvait pronostiquer l'issue et encore moins le score. On sentait arriver le crash, mais nul, pas même le plus excentrique des bookmakers, n'aurait pu prévoir son ampleur à ce niveau de la compétition. Quelle qu'ait été la médiocrité de la production des poulains de Scolari. Une chose est certaine, le sélectionneur brésilien devra assumer ses choix. Depuis la désignation du Brésil pour l'organisation du mondial, Scolari a préféré mettre sur pied une nouvelle équipe sur la base de la sélection des jeunes, champion du monde junior, puis vice-champion olympique en 2012, écartant par la même occasion des joueurs d'expérience qui auraient pu apporter une sécurité minimale dans un groupe totalement converti aux critères du football européen. Du coup, la perte d'éléments clés dans les zones névralgiques que sont la défense centrale et l'animation offensive lui a été fatale. Cependant, limiter le naufrage brésilien à la seule absence de Neymar et de Thiago Silva serait réducteur. C'est toute l'équipe qui a sombré, victime d'un chaos parfait d'un soir, comme cela arrive rarement en haute compétition. C'est donc dans la sérénité que les décideurs brésiliens sont appelés à réfléchir sur le dépoussiérage des fondamentaux qui ont toujours fait la réussite du football carioca, et ceci pour le bonheur des puristes. À demain.
En bref, sachez que la FIFA a suspendu la Fédération de football du Nigeria à titre conservatoire en raison d'une ingérence. Dans l'immédiat, cela signifie que le Nigeria ne sera pas autorisé à participer à la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans si la suspension n'est pas levée avant le 15 juillet.
En fait, cette décision intervient après l'action en justice contre la Fédération nigériane par le tribunal de grande instance de la République fédérale du Nigeria qui empêche le président de la fédération, les membres de son comité exécutif et son congrès de gérer les affaires du football nigérian. Et sur le plan de l'arbitrage, on pourrait peut-être voir des arbitres africains à la finale. Deux trios d'arbitres emmenés par l'Ivoirien Doué Normandier et l'Algérien Jamel Aïmoudi restent en effet en course pour arbitrer la finale qui aura lieu dimanche au Maracana. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde préparé par Bagassikoura et Nicolas Pinault. Idrissa et tous les fidèles de la Voix de l'Amérique, je vous donne rendez-vous sur le site spécial voabrésil2014.com et je vous dis à ce soir pour un nouveau point sur la Coupe du Monde. Je vous retrouverai depuis Rio.
À présent, Roger Muntou et sa musique. Bonjour Roger.
Bonjour Idrissa. Mauro Ramos de Florencio, connu sous le nom de Ramito, était un célèbre chanteur portoricain. Sa chanson « Que bonita bandera » a tellement eu du succès que plusieurs artistes en ont fait des remixes. Le groupe Révolution nous chante « Que bonita bandera ».
Que bonita bandera, 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 es la bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera.
Ramito chantait déjà à l'âge de 13 ans pour gagner de l'argent.
Oui, ses parents étaient très pauvres et le petit Ramito s'est senti obligé de subvenir aux besoins de la famille. Il est devenu très populaire vers les années 60. Il était l'icône de la musique portoricaine.
Merci Roger.
De rien Idrissa, bonne journée.
Roger Muntou que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel. Et Bonita Bandera, je crois qu'on a finalement compris. Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.